Vous écoutez, on lit pour vous.
Quand l'humain façonne la nature sans le vouloir. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 2 février 2025 dans la presse. Des escargots plus pâles. Des oiseaux aux ailes courtes. Des nids faits de pointes en métal. La société humaine et moderne influence le comportement et l'évolution des animaux. En voici trois exemples. Escargot des villes, escargot des champs. C'est bien connu. Les couleurs pâles reflètent davantage le soleil et donc protègent de la chaleur. Les escargots néerlandais l'ont compris. C'est du moins la conclusion à laquelle est arrivé un biologiste de l'université de Leyde, Menno Schilthuysen. Nous avons voulu vérifier si les changements climatiques avaient cet effet sur nos escargots, raconte M. Schilthuysen. À partir de 2010, nous l'avons confirmé. Mais nous ne savions pas exactement jusqu'où irait le pâlissement des coquilles. Dans les villes, il fait encore plus chaud qu'à la campagne. Nous avons poursuivi nos recherches jusqu'à ce que nous ayons la réponse. Dans les villes, les coquilles sont encore plus pâles qu'à la campagne. Des études ont montré que les escargots à coquilles pâles ont une température interne inférieure de 1 degré Celsius à celle des escargots à coquilles foncées. Dans les villes néerlandaises, 70% des escargots ont une coquille jaune, la couleur la plus pâle, contre 45% à la campagne, selon une étude publiée en 2019 par M. Schilthuysen dans la revue savante Nature Communication Biology. Entre la campagne et la ville, la proportion des escargots à coquilles roses diminue de 30% à 10%, et celle des coquilles brunes, la couleur la plus foncée, de 25% à 20%. L'augmentation du ratio des coquilles pâles, particulièrement les roses, est due au taux de survie plus grand de leurs occupants qui transmettent ensuite ces gènes. Peu à peu, les gènes qui rendent les coquilles plus sombres deviennent plus rares chez les escargots néerlandais avec le réchauffement planétaire. Une question concernant les rayures demeure en suspens. Le nombre d'escargots avec beaucoup de rayures noires a augmenté, ce qui est surprenant, étant donné l'augmentation de la température ambiante. Nous pensons que ça donne une protection contre les rayons UV, mais ça reste à vérifier, précise M. Schilthuysen. Des hirondelles qui évitent davantage les voitures. Donald Brown étudie l'hirondelle à front blanc depuis 40 ans. Il y a une dizaine d'années, le biologiste de l'Université de Tulsa a réalisé que le nombre d'hirondelles tuées le long des autoroutes en Oklahoma était en forte diminution. Pourtant, cette espèce, aussi présente au Québec, n'était pas en danger de disparition. Les recensements dans les champs montraient qu'il y avait autant d'hirondelles qu'avant, indique M. Brown. Il devait donc y avoir un changement de comportement. Les hirondelles n'avaient pas seulement modifié leur fréquentation des autoroutes. Elles avaient en moyenne des ailes légèrement plus courtes. Des ailes plus courtes permettent plus de maniabilité. C'est comme pour les avions chasseurs. Ils ont des ailes plus courtes que les bombardiers ou les avions de ligne. Sélection naturelle oblige. Le taux de survie supérieur des hirondelles génétiquement susceptibles d'avoir une envergure réduite a aidé leur cause. Donald Brown conclut. Comme il y avait plus d'hirondelles avec des ailes plus courtes et qu'elles se font moins percuter par les voitures, il y avait moins de cadavres près des routes. Autre facteur favorisant les hirondelles aux ailes courtes, la disparition des milieux humides et des prairies naturelles, signale M. Brown. L'augmentation de l'étendue urbaine et des grandes monocultures favorise les insectes plus gros plutôt que les essaims de petits insectes. Pour attraper ces insectes plus gros, les hirondelles doivent les poursuivre alors qu'avant, elle pouvait seulement viser le milieu des essaims. Des ailes plus courtes aident à la poursuite de ces gros insectes. La taille totale des fermes diminue aux États-Unis, mais leur taille moyenne augmente, ce qui favorise l'établissement de grands champs de monoculture. La taille moyenne des ailes des hirondelles a continué à diminuer depuis que M. Brown a découvert cette tendance. Le biologiste se demande maintenant jusqu'à quel point cela continuera. Il y a quand même une limite à la petitesse des ailes. Est-ce que le même phénomène a été observé chez d'autres espèces? Non, parce que nous avons une base de données unique au monde pour une seule espèce. Nous avons 3000 spécimens d'hirondelles mortes remontant à 1982. Vous écoutez « Quand l'humain façonne la nature sans le vouloir », un texte de Mathieu Perrault, paru le 2 février 2025 dans la presse. Des pies qui s'inspirent des humains. Le long des toits de plusieurs villes, des pointes métalliques découragent les oiseaux de s'y poser ou d'y construire leur nid. Les pies des Pays-Bas ont repris à leur propre avantage cette caractéristique anti-aviaire. Ils détachent ces pointes et les utilisent pour construire des toits sur leur nid pour se protéger contre les prédateurs comme les corbeaux. C'est une application assez unique d'une technologie humaine par un animal, explique Oak Florian Imstra du musée Naturalist de Leyde, qui a décrit ce phénomène en 2023 dans la revue Densha du musée d'histoire naturelle de Rotterdam. On a vu des nids composés de déchets de plastique, de masques, de préservatifs. Mais dans ce cas, la pie utilise les pointes pour le but pour lequel ils ont été conçus, décourager les oiseaux. Les pies, et aussi les corneilles, font des nids avec des toits pour se protéger des prédateurs. Dans la nature, il s'agit de branches avec des épines, note M. Imstra. Il y a eu, depuis les années 1930, des rapports anecdotiques indiquant que ces oiseaux utilisaient des objets comme des seringues et des barbelés pour construire le toit de leur nid. Pour la première fois, nous montrons que c'est une pratique généralisée dans les environnements urbains où des objets pointus comme les pointes sont facilement disponibles. La prochaine étape sera de voir si les pies préfèrent les pointes anti-oiseaux ou les branches pleines d'épines. Oak Florian Imstra dit « Nous sommes en train de faire un essai contrôlé pour voir si elles préfèrent ce que des générations de pies ont toujours utilisé pour se protéger des prédateurs ou si elles ont déjà compris, si c'est le cas, que les pics en métal sont meilleurs. » Y a-t-il d'autres espèces où une telle préférence pour la technologie humaine a été observée? Ça a été testé en Corée du Sud, sur des spatules, des échassiers, qui utilisaient des déchets de plastique pour faire leur nid, répond M. Imstra. Il s'agit d'une espèce menacée, alors on craignait que le plastique ne nuise à leur avenir, à cause des dangers d'ingestion, particulièrement pour les oisillons. Heureusement, si elles ont le choix, les spatules préfèrent les matériaux naturels. Une autre espèce problématique aux Pays-Bas s'avère le trichoptère, un insecte ailé qui, à l'état de larve, se fabrique un nid dans l'eau avec du sable et des bouts de brindilles. Les larves utilisent maintenant des microplastiques, possiblement parce qu'ils sont plus faciles à trouver et plus légers à transporter durant la construction du nid, dit M. Imstra. Mais les nids de microplastiques sont aussi plus susceptibles d'être emportés par le courant, justement parce qu'ils sont plus légers. Et ils sont plus visibles des prédateurs, note le biologiste néerlandais. Beaucoup de trichoptères sont des espèces menacées, souligne-t-il. Ajoutez à cela les changements climatiques qui réchauffent l'eau et les nids de microplastiques qui emmagasinent la chaleur plus que ceux de sable et de brindilles. Et vous avez une mauvaise nouvelle pour les trichoptères. En savoir plus. Source: USDA. 900 millions d'acres, taille totale des fermes américaines en 2017. 880 millions d'acres, taille totale des fermes américaines en 2022. 441 acres, taille moyenne d'une ferme américaine en 2017. 463 acres, taille moyenne d'une ferme américaine en 2022. Source MAPAC. 264, taille moyenne d'une ferme québécoise en acres en 2021. C'était « Quand l'humain façonne la nature sans le vouloir », un texte de Mathieu Perrault, paru le 2 février 2025 dans La Presse.
La santé publique du Québec craint une montée de cas de rougeole. Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 13 janvier 2025 dans Le Devoir. L'éclosion de rougeole se poursuit au Québec avec un total de 11 cas jusqu'à présent. La situation est inquiétante étant donné que les conditions propices à une montée de cas sont réunies, a affirmé le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, en entrevue le lundi 13 janvier 2025 au Devoir. Il y a une personne qui avait été bien avisée du risque de contagiosité, mais qui, malgré tout, a choisi d'aller marcher quelques heures au Carrefour Laval, un endroit très connu. Elle est allée dans plusieurs boutiques, dont la librairie Renaud-Bray. Nous ne serions donc pas surpris de voir d'autres cas apparaître prochainement, a-t-il expliqué. Selon le site web du gouvernement québécois, la personne en question aurait fréquenté ce centre commercial le mardi 7 janvier 2025. Les autres lieux visités par les gens ayant contracté cette maladie récemment sont d'ailleurs recensés en ligne. Il s'agit d'endroits situés à Montréal, à Laval, dans les Laurentides et en Montérégie. Depuis le début de l'éclosion de rougeole en décembre 2024, les 11 Québécois ayant attrapé la maladie sont des adultes, a affirmé le Dr Boileau. Le premier cas a été exposé par une personne résidant à l'extérieur du Canada et ayant voyagé au Québec durant sa période de contagiosité, a écrit le ministère de la Santé et des Services sociaux plus tôt en janvier 2025. Cette maladie grave et très contagieuse est causée par un virus qui se transmet par voie aérienne lorsqu'une personne infectée respire, tousse ou éternue. En fonction de la circulation de l'air, le virus peut y rester suspendu jusqu'à 2 heures, a souligné le Dr Boileau. La rougeole se manifeste par de la fièvre, de la toux, de la congestion nasale avec écoulement et une conjonctivite. Des rougeurs sur la peau surviennent ensuite. Elle peut entraîner la perte de la vue ou de l'audition, des dommages permanents au cerveau ou même la mort. Se protéger soi-même et les autres. Il n'existe aucun traitement contre la rougeole, ce qui fait que la meilleure façon de s'en préserver est la vaccination, a rappelé le Dr Luc Boileau. Un geste d'autant plus nécessaire compte tenu du nombre d'éclosions à travers la planète qui augmente, a-t-il soulevé. C'est sûr qu'un jour ou l'autre, on va se ramasser à nouveau avec une rougeole qui va se réinstaller par un vol d'avion qui atterrira à Montréal ou à Québec et qui va donner d'autres cas. Le mieux est donc que les enfants et les adultes soient protégés. Après 2 doses, le vaccin contre cette maladie est efficace à plus de 95% durant toute la vie. Ceux qui sont nés avant 1970 sont considérés comme étant immunisés, car ils l'ont probablement déjà contracté lorsqu'ils étaient plus jeunes. Afin de protéger les autres, une personne qui n'est pas immunisée contre la rougeole et qui a été en contact avec un cas de la maladie doit respecter les consignes des autorités sanitaires, a souligné le directeur national de la santé publique. Elle doit s'isoler chez elle à partir du 5e jour suivant son exposition et jusqu'au 14e jour inclusivement. Le docteur Luc Boileau craint notamment que des bébés de moins de 1 an aient pu être exposés à la rougeole récemment. étant donné que la première dose de vaccin ne peut être administrée qu'à partir de l'âge de 12 mois, ils sont plus susceptibles de développer des complications de la maladie. Par contre, quand on a un enfant de moins de 1 an qui aurait été exposé à la rougeole, on peut lui donner des anticorps pour le protéger, a expliqué le docteur Boileau. Hormis les nourrissons, les gens dont le système immunitaire est affaibli et les femmes enceintes non vaccinées sont plus à risque de développer des symptômes graves de la maladie. En tout, 56 cas de rougeole ont été déclarés au Québec en 2024, dont 51 qui étaient liés à une première éclosion ayant eu lieu entre les mois de février et de juin. C'était « La santé publique du Québec craint une montée des cas de rougeole », un texte de Florence Morin-Martel paru le 13 janvier 2025 dans Le Devoir.
Les hommes doivent travailler moins, un texte de Joséphine Lethbridge, paru le 25 novembre 2024 dans Les Glorieuses. Chris Sterling est consultant en technologie pour la compagnie d'assurance Zurich. Il vit à Glasgow avec sa femme Kerry, son fils Oliver, qui a 7 ans, et sa fille Abigail, âgée de 3 ans. Quand il a rejoint Zurich, il travaillait à temps plein, mais il a réduit son nombre d'heures en août 2020 pour s'occuper de ses enfants de manière plus équitable avec son épouse. Il explique que ses horaires flexibles lui ont permis de développer ses compétences en graphisme et de les utiliser au profit d'associations caritatives locales et de sa paroisse. Mon rythme de travail ne m'apporte que du positif, de la polyvalence dans ce que je fais, mais aussi des moments privilégiés avec mes enfants, raconte Chris Sterling. Je me sens incroyablement chanceux d'avoir pu bénéficier d'un congé paternité à salaire plein pour Abigail. Grâce à ce congé et à mes vacances, j'ai pu être très présent pendant les premières années de leur vie. La situation de Sterling serait très classique s'il était une femme. Mais en tant qu'homme, il fait partie d'une minorité au Royaume-Uni où 72% des personnes qui travaillent à temps partiel sont des femmes. Après avoir parlé avec d'autres pères, je constate que mon expérience représente une exception plutôt que la norme, dit-il. Cela veut dire qu'en travaillant à temps partiel, en plus de faire sa part à la maison, Chris Sterling contribue à réduire l'écart salarial entre les femmes et les hommes. En voici la preuve. Chris Sterling a pu effectuer ce changement grâce aux modalités de travail flexibles de Zurich qui ont été conçues de façon à non seulement proposer davantage d'options aux femmes, mais aussi à encourager les hommes à travailler moins d'heures. Ces mesures ont vu le jour suite à la participation de Zurich à un projet financé par le gouvernement pour étudier ce qui est vraiment efficace lorsqu'il s'agit de combler l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Zurich a travaillé avec un cabinet de conseil pour analyser les données relatives à ses employés et comprendre sa propre disparité salariale liée au genre, qui était à l'époque de 26,3%. L'équipe a découvert que l'une de ses principales causes était la différence d'évolution de carrière entre les travailleurs-travailleuses à temps plein et à temps partiel. Celles et ceux qui travaillaient à temps partiel étaient beaucoup moins susceptibles de demander des promotions. Et comme beaucoup plus de femmes travaillaient à temps partiel, cela avait un impact considérable sur la rémunération relative des hommes et des femmes. Beaucoup de femmes revenaient de leur congé maternité, demandaient à travailler à temps partiel, puis se retrouvaient coincées à leur poste, explique Shoshana Davidson, une chercheuse qui a travaillé sur ce projet. Nous nous sommes donc demandé, Zurich peut-elle promouvoir les postes différemment, de façon à permettre à plus de femmes de progresser dans leur carrière? En 2019, l'entreprise a commencé à présenter la grande majorité de ses offres d'emploi comme proposant des options flexibles à temps partiel ou en partage de poste. Si les gestionnaires de recrutement voulaient qu'un poste soit annoncé comme étant exclusivement à temps plein, ils devaient fournir une analyse de rentabilité expliquant pourquoi cela était nécessaire. Zurich venait de changer la norme. Aujourd'hui, 4 fois plus d'employés de Zurich travaillent à temps partiel. L'entreprise a constaté une augmentation de 72 % du nombre de candidatures par poste à pourvoir et une hausse de 110 % des candidatures émanant de femmes. Les promotions internes à temps partiel ont bondi de 167 %. Les femmes ne sont pas les seules à saisir ces opportunités. Si elles sont toujours plus nombreuses que les hommes à faire ce choix, le nombre d'hommes travaillant à temps partiel a doublé. Et l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes s'est réduit à 12,6 %. Le travail cupide. Ces résultats ne sauraient surprendre les chercheurs-chercheuses qui s'intéressent à la question. Mina Cooper-Coles, spécialiste de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes au King's College de Londres, a récemment publié un rapport sur la qualité de l'emploi et la parentalité au Royaume-Uni, en s'appuyant sur des données provenant de plusieurs enquêtes nationales. Les emplois à temps partiel ont tendance à être de moins bonne qualité, moins gratifiants, moins flexibles, nécessitent de faire plus d'heures supplémentaires et offrent beaucoup moins de possibilités de promotion. Mina Cooper-Coles ajoute « Il existe une véritable stigmatisation du travail à temps partiel et avec des horaires flexibles et, par conséquent, une pénurie d'emplois à temps partiel de qualité. » Les travaux de Mina Cooper-Coles ont démontré que, comparées aux femmes sans enfants, les femmes d'enfants en âge d'aller à l'école primaire au Royaume-Uni sont 13 % plus susceptibles de posséder des emplois de faible qualité avec plus de souplesse au niveau des horaires. En revanche, les pères ont 16 % plus de chances que les hommes sans enfants d'occuper des emplois à forte rémunération et à faible amplitude horaire. C'est ce que l'économiste Claudia Goldin, lauréate du prix Nobel, qualifie de « travail cupide »,« greedy work ». Lorsque des emplois prestigieux et bien rémunérés, principalement occupés par des hommes, exigent également de longues heures de travail qui font peser les responsabilités de soins, le « care », sur leurs partenaires, qui sont alors piégés dans des emplois de moindre qualité pour compenser. Cette histoire résonnera avec de nombreuses femmes. Vous avez un enfant et en raison de la nature de la grande majorité des conventions de congé parental, vous êtes celle qui prend le plus de congés, ce qui signifie que vous vous retrouvez rapidement à assumer la responsabilité de la plupart des tâches de soins, care. Alors vous quittez le marché du travail, travaillez à temps partiel ou êtes forcé de prendre un emploi qui ne paie pas très bien. Par ailleurs, les employeurs et la société en général présument que ce sont les mères et non les pères qui feront des sacrifices dans leur carrière. J'étudie cette situation tout en la vivant moi-même. C'est assez rageant, avoue Cooper Coles. Après avoir eu mes enfants, je suis passée à temps partiel tandis que mon partenaire continue de travailler à temps plein. Mais bien sûr, ce n'était pas vraiment un choix, c'est le système. Les actions comptent. L'étude de Cooper Coles montre qu'au Royaume-Uni, 70 % des mères continueraient à travailler même si elles n'en avaient pas besoin financièrement. C'est juste qu'il y a un véritable manque de bons emplois leur permettant de le faire. Mais il est essentiel que les hommes se saisissent aussi de ces opportunités. On doit vraiment s'inquiéter du fait que seules les femmes adhèrent à ces mesures, prévient Yi-Yung Chung, une collègue de Mina Cooper Coles et l'autrice du livre « The Flexibility Paradox », « Le paradoxe de la flexibilité ». Quand cela arrive, ces pratiques sont stigmatisées. Mais si les pères et les managers y adhèrent aussi, le contraire se produit. Il faut donc que davantage d'hommes et de pères travaillent à distance, avec des horaires flexibles et à temps partiel. Il n'y a pas que des pères, comme Chris Sterling, qui ont bénéficié des modalités de travail à temps partiel de Zurich. Alan Roxburgh avait toujours pensé qu'il voudrait prendre sa retraite, à 60 ans. L'assureur travaillait pour Zurich depuis 12 ans. Mais quand le moment est venu de prendre ma retraite, « je ne me sentais tout simplement pas prêt », raconte-t-il. Roxburgh a alors parlé à son manager de la possibilité de passer à temps partiel plutôt que de prendre sa retraite tout de suite. Grâce à la politique en place chez Zurich, cela n'avait rien d'extraordinaire. Nous avons décidé que je pourrais utiliser mes connaissances et mes compétences pour travailler sur des missions précises. Je trouve maintenant très agréable de travailler un jour et demi par semaine tout en me consacrant au jardinage et à de nombreux autres passe-temps pour lesquels je n'avais jamais eu le temps. Les parcours de Roxburgh et Sterling montrent que l'impact du travail flexible va bien au-delà de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, remettant en question ce que nous privilégions dans un emploi, notre qualité de vie et les précédents que nous établissons pour nos collègues, notre communauté et, peut-être plus important encore, nos enfants. Nous avons beau penser que nous sommes féministes, c'est souvent très difficile à mettre en œuvre lorsque cela concerne notre famille et notre relation avec la personne que l'on aime, me dit Yi-Yung Chung. Ce que vous dites à vos filles et vos fils n'a pas d'importance. Si vous voulez vraiment que votre fille s'épanouisse et devienne une personne respectée à la fois dans la société et à la maison, vous devez le montrer. Elle dit que cela signifie se poser des questions difficiles. Quelle sorte de rôle genré mettez-vous en place à la maison? Qui travaille? Qui fait le ménage? Qui s'occupe du travail de soins? Voilà ce qui perdurera. C'était « Les hommes doivent travailler moins », un texte de Joséphine Medbridge, paru le 25 novembre 2024 dans Les Glorieuses.